10h, 11h, l'islam au présent sur Beurre FM.
Et vous êtes les bienvenus pour poser toutes vos questions tout à l'heure concernant le mariage avec Sabrina de l'agence Abelni et l'imam Abdelali Mamoun. Mais imam Abdelali, il est temps de se diriger vers ce personnage du jour dont vous allez nous dresser le portrait, le bien-aimé mal-aimé.
Le bien-aimé, parce qu'il s'appelait Hibbu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'était son surnom. Hib, ça veut dire le bien-aimé,
ouais.
Qui veut dire Mahboub, Habib, Hib. Attention, je dis Hib. Hibbu Rasulillahi sallam. Il avait même un fils, Oussama ibn Zayd, qui s'appelait Al-Hib ibn al-Hib. Le bien-aimé, fils du bien-aimé. Donc, dès le début, quand il est, on va dire, d'une certaine manière, bon, officiellement, c'est acheté par Hakim ibn Hizam, le neveu de Khadija. Khadija bint Khuwaylid, l'épouse du prophète, à la Mecque, reçoit un cadeau de son neveu, Hakim ibn Hizam. Ce cadeau, c'est un enfant qui s'appelle, justement, Zayd ibn Haritha ibn Sharahbil al-Kalbi al-Khuza'i al-Tuhami. Voilà, donc tout ça. Donc, il est originaire de la côte... qui est pas loin de la Mecque, donc du Hijab, donc Sahel, qui longe la mer Rouge. Et cette région-là, on l'appelle en arabe Tuhama, Tuhama. Et le prophète, Aslam, a pour surnom At-Tuhami. At-Tuhami, c'est-à-dire qu'il est originaire de cette région de Tuhama, puisque la Mecque fait partie de cette région-là. C'est le Hijaz, donc c'est le côté ouest, extrême ouest de la péninsule arabique. Donc Tuhama, c'est cette région-là. Et même il y a aujourd'hui beaucoup de parents qui appellent leur enfant Tuhami. Vous avez entendu peut-être le prénom Tuhami. Je ne sais pas si vous avez autour
moi
de
jamais,
vous des Tuhami. Il y en a beaucoup des Tuhami. Il y avait même un président de l'UIF qui s'appelle Tuhami Breeze. Voilà, il est encore vivant, il est là. Hein. Il était au Bourget ce week-end dernier. Je salue au passage. Donc Tuhami est un prénom, quand on veut surnommer quelqu'un du nom du prophète, on va l'appeler Tuhami, on va l'appeler Mokhtar, mais tout ça, ça fait, ou Mustafa, ça fait allusion au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ce Zayd ibn Harith a fait l'objet, alors qu'il était en visite avec sa mère, il a été captif. Donc il a été pris prisonnier, il a été fait prisonnier par une tribu qu'on appelle les Qayn ibn de Qudaa, les Banu Qayn ont pris lui et sa mère comme prisonniers, ils les ont rendus esclaves et les ont vendus au marché de Oukaz. Oukaz, c'est le fameux marché de la Mecque. Où est-ce que tout se vendait, où les par exemple les poètes se levaient pour chanter leur poésie, etc. C'était un lieu très très public et c'est là où est-ce qu'il a été acheté par Hakim ibn Hizam qui en a fait don à sa tante Khadija. Et donc il est rentré grâce à cela dans la demeure du prophète Mohammed alayhi salam et le prophète aimait beaucoup cet enfant qu'il a donc surnommé Ibni, son fils. Au début c'était son fils, Ibni. Et il demandait aux gens, appelez-le Zayd ibn Muhammad, Zayd fils de Muhammad. Comme ça. C'était avant l'avènement de l'islam. Et cet enfant-là, qui était très blanc, mais avec un nez très plat. C'est pour ça qu'on dit qu'il était aftas. En arabe, aftas, ça veut dire qu'il avait un nez plat. Donc, il n'était pas très beau et il n'était pas issu d'une famille très noble. Mais le prophète l'aimait énormément, considéré comme son propre fils. Donc, jusqu'au jour où, bien sûr, l'adoption a été abrogée dans Sourate l'Ahzab, l'année 5 de l'Hégire, où, avant, il s'appelait le fils de Mohammed. Eh bien, puisque tu n'es plus mon fils, tu seras mon Habib, mon Hib, mon bien-aimé. Et c'est de là qu'il est devenu le bien-aimé du prophète. Mais pourquoi il était mal aimé? Parce que le prophète, à ce moment-là, il l'a marié avec sa cousine, la cousine du prophète, qui s'appelle Zaynab bint Jahsh. Zaynab bint Jahsh, donc Jahsh, le père de, était marié avec la tante du prophète. Donc Zaynab bint Jahsh est la cousine bint Ammat al-Nabi alayhi salatu wassalam. Donc c'est la cousine du côté de sa mère, à elle. Donc Umayma bint Abd al-Muttalib est la tante du prophète alayhi salatu wassalam et Zaynab est sa fille. Donc elle est la cousine du prophète. Et donc étant la cousine du prophète, elle fait partie de la noblesse mécoise. Alors que ce Zayd ibn Haritha qui était un esclave n'était pas d'un même degré social. Donc elle n'appréciait pas tellement ce personnage qui avait pas beaucoup de personnalité, qui manquait de, on dit aussi de charisme, de beauté. Les Arabes, c'est le nez était très important, il fallait avoir un nif comme on dit en arabe pour s'afficher dans la société. Et lui ce petit bonhomme tout blanc mais tout mignon mais qu'elle n'appréciait pas parce qu'elle le considérait comme étant inférieur à son niveau. Eh bien, elle était toujours en embrouille avec lui. Donc, il était à la fois bien aimé par le prophète, mais très mal aimé par sa femme, Zaynab bint Jahsh. Donc, elle a demandé le divorce. Elle a dit au prophète, Ya Rasulallah, divorce, moi, je peux plus supporter. Et Dieu a révélé ce dialogue qu'il y a eu entre le prophète et Zayd quand il est venu voir Ya Rasulallah, j'en peux plus, Zaynab, elle m'insupporte, elle me prend de haut, etc. Et Dieu lui dit, le prophète lui dira, il taqulu lilladhi an'ama Allahu 'alayka 'alayhi wa an'amta 'alayhi amsik 'alayka zawjuk wattaqillah. Donc tu lui diras, garde ta femme. Pourquoi? Parce que le prophète ne voulait pas penser qu'il était en train d'encourager ce compagnon à se séparer de sa femme, qui était très belle, hein, Zaynab bint Jahsh, c'était une belle femme de grande noblesse, pour justement pouvoir lui se marier avec elle. Mais Allah Azza wa Jal a dévoilé cela, ce qu'il avait au fond de lui-même, parce qu'il aimait cette femme, il aimait Zaynab, il aimait sa cousine, mais il n'osait pas le dire. Et Dieu lui a dit, watarsha an-nas, et tu crains les gens. Wallahu haqqu an tarshah. Alors que c'est Dieu qui est plus à même à être craint. Et quand Zayd finalement l'a répudié et qu'il a passé ce délai de viduité de 3 mois qui permet de distinguer si elle est enceinte de lui ou pas, falamma qada Zaydun minha wataran, hein, puisque Dieu va citer même son nom dans le Coran. Dans le Coran, le Saint Coran, Zayd est le seul compagnon dont le prénom a été cité. Falamma qada Zaydun minha wataran zawajnakaha. Et quand Zayd l'a répudié et a été complètement séparé d'elle, eh bien, nous te l'avons mariée. Zawajnakaha likay la yakuna 'ala al-mu'minina harajun fi azwaj adiyahum, afin que chacun sache que l'adoption n'est pas une véritable affiliation et qu'à partir de là, tout un chacun a le droit de se marier avec une femme qui n'est pas la femme de son fils vrai, de son vrai fils, puisqu'en islam on ne peut pas se marier avec la femme de son fils, donc sa belle-fille, mais si vraiment il est son fils, alors que là en l'occurrence Zayd n'est pas le fils du prophète. Donc Dieu a décidé de marier le prophète à sa cousine qui était l'ex-femme de son fils adoptif, pour bien montrer que son fils n'est pas son fils adoptif. Donc c'est pour cela que, parce que Dieu a instrumentalisé ce personnage qui est Zayd, il l'a honoré en citant son nom dans le Coran. Il l'a récompensé en disant, bah tiens, je vais citer ton nom, parce que comme je t'ai instrumentalisé de la même manière que j'ai instrumentalisé Maryam, pour qu'elle puisse donner naissance à un prophète, eh bien je vais citer ton nom, parce que tu as joué un rôle important dans la législation islamique. Et donc ce compagnon est le seul compagnon cité dans le Coran. Il va devenir après un commandant hors pair, inégalé dans cette capacité d'encadrer des guerriers au même moment justement où est-ce que la Oumma est mise en danger. Il y a 150 000 Byzantins qui menacent la péninsule arabe et détruire et anéantir cette nation islamique. Eh bien, il le désigne comme étant le premier commandant. Le premier commandant de cette armée de 3000 hommes qui va affronter 150 000 hommes, c'est Zayd ibn Haritha. Et il va mourir martyr. Son successeur, Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète, c'est lui qui va prendre Raya, le drapeau. Lui aussi va succomber à la bataille, il va mourir. Ensuite, le troisième, c'est Abdullah ibn Rawaha, le grand poète médinois. Il va prendre Raya, l'étendard, bien sûr, par décision du prophète. C'est le prophète qui dit, Zayd fa in mata Zayd fa Ja'far, fa in mata Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha. Et Ja'far, Abdullah lui aussi va mourir. Les trois vont mourir dans la bataille. Et c'est finalement Khalid ibn al-Walid, Saifullah al-Masloul, qui va prendre l'étendard. Mais lui, le stratège par excellence, va bien sûr réussir à faire fuir l'ennemi tout en préservant le sang de ses compagnons et en permettant de se retirer de la bataille sans faire trop de dégâts. C'est 500 compagnons qui vont mourir dans cette bataille qui va avoir lieu l'année 7 de l'Hégire, un an avant la conquête de la Mecque. Ça n'est pas rien, mais c'est quand même 150 000 hommes devant eux, et il va vraiment limiter les dégâts tout en empêchant et en invitant les Romains et les Byzantins à rentrer chez eux et à laisser les Arabes tranquilles. Donc alhamdoulillah, cette bataille va bien se terminer, mais pour les Arabes, ils vont dire Khalid est un peureux. Innahu farrar. Innahum al-furrar, ce sont ses compagnons qui ont fui l'ennemi, vont dire les compagnons quand ils vont arriver à Médine. Et le prophète est le seul, il va se lever, il va dire Belhum al-qurrar. Ce sont au contraire des courageux qui ont réussi à faire fuir l'ennemi et à préserver le sang. Car ce qui est important, ce n'est pas de tuer ou de vaincre, mais de préserver la vie. Voilà pourquoi Zayd ibn Haritha radiyallahu ta'ala anhu était considéré comme l'un des compagnons les plus appréciés du prophète. Il était bien aimé par son prophète, mais très mal aimé par sa femme radiyallahu ta'ala anhu jami'an.
Bien, l'imam Deli fait vivre les personnages.
Je sais.
Vous avez vu ça?
Beaucoup d'émotions.
J'essaye un peu.
Bien, vous pourrez poser vos questions tout à l'heure à Sabrina de l'agence Abeni sur le mariage et à l'imam Abdelali Mamoun. Revenons justement au mariage imam Abdelali. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de se marier en islam ?
Bah, tout simplement parce que tout seul, on ne peut pas véritablement se construire dans la vie. On a besoin d'un compagnon, d'une moitié. On dit la femme est la moitié de l'homme, mais c'est pas la moitié parce qu'elle est la moitié.
Je crois que le mariage, c'était la moitié de la religion.
Oui, effectivement, c'est véritablement ça le proverbe, puisque le prophète il dit celui dont Dieu lui a fait don d'une femme pieuse. Attention, c'est pas le mariage qui est la moitié, c'est la femme pieuse. C'est cette femme qui va t'encourager à être assidu dans la religion, à continuer à cheminer, à progresser dans ta foi. Cette femme là, si Dieu t'en fait don, eh bien, il t'aura aidé à accomplir la moitié de ta religion. Faqad a'anahu ala shatr dinihi, dit le prophète, falyattaqillaha fi shatr al-akhar, qu'il craint Dieu sur cette deuxième moitié dont il est lui-même le seul responsable. Donc c'est un moyen de se construire, de se cheminer et de cheminer dans la foi ensemble. C'est aussi construire un projet familial. Un mariage, c'est construire un foyer avec des enfants et puis donner naissance à des générations à qui on va confier cette religion, cette amana, ce dépôt d'Allah Azza wa Jal. Le mariage, c'est quelque chose qui est un besoin inné. C'est un besoin affectif. L'homme ne peut pas se passer de la femme. Il est un vêtement pour elle. Elle est un vêtement pour lui. Dieu dans le Coran, Hunna libas, hunna lakum wa antum libas. C'est très important. Un homme qui tous les soirs rentre chez lui est seul est forcément plus fragile que celui qui est accueilli par une épouse ou inversement, une femme qui rentre chez elle et qui trouve l'épaule de son mari pour l'aider à supporter les moments d'adversité, et bien sûr, ils sont beaucoup plus forts l'un avec l'autre. Et bien voilà, donc le prophète lui-même a bien sûr invité le mariage parce qu'il est important d'engendrer et multiplier les membres de sa communauté. Il dit, alayhi salatu wa salam, « Takatharu tanasalu » Hein, multipliez-vous, faites des enfants, donnez naissance, engendrez des enfants. فَإِنِّي مُبَاهِنْ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Car je me vanterai du grand nombre de membres de ma communauté les jours de la résurrection. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça soit que de la quantité, il faut aussi que ça soit de la qualité. Ainsi faire 10 enfants, mais en faire que des voyous ou des délinquants, ça vaut pas le coup. Donc c'est important ça. Il faut faire de la qualité. De la quantité, mais de la qualité d'abord. Donc c'est quelques aspects pour répondre à ta question sur l'importance du mariage.
Mais il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui se marient, qui veulent pas d'enfants. Hein.
Eh bien, écoute, ça n'est pas conseillé de se marier pour ne pas avoir d'enfants, parce que de toute façon, se regarder entre quatre yeux, à un moment donné, on en a marre. Il faut regarder autre chose que les beaux yeux de sa femme ou de son mari. On veut parfois aussi regarder un enfant, deux enfants, trois enfants, pourquoi pas, et plus même, si on a envie. Donc, il faut avoir un projet, il faut avoir un engagement, il faut avoir une raison d'être ensemble dans la vie. Et donc, donner naissance à des enfants, c'est le plus grand des bonheurs que peut avoir un couple. Et combien aujourd'hui de parents se pleurent de ne pas pouvoir avoir d'enfants, alors quand je vois d'autres qui disent, ah non, moi je veux profiter de la vie, non, je veux encore me promener en Indonésie, moi aussi je veux aller à Medan, à Medan ou à Meudon, je sais plus comment ça s'appelle là, planter des arbres.
À Meudon vous pouvez y aller après l'émission si vous voulez, c'est pas très loin avec un bon GPS,
Indonésie je parlais. Non, ben en tout cas, bref. Certes, il est bien, il est intéressant de faire un hajj, une umra, de voyager avec sa femme, etc. Avant d'avoir des enfants, c'est vrai, parce qu'après avoir des enfants, c'est compliqué. Mais il faut tout de suite.
C'est compliqué. Puis les gens, par rapport aux incertitudes du monde aujourd'hui. Ils sont plus réticents.
Ça, c'est pas bon, par contre. Cet état d'esprit de craindre la pauvreté ou la misère ou les guerres, etc. Pour ces enfants, c'est du n'importe quoi. Qaddar Allahu ma sha'a fa'al. Je vois pas pourquoi ce serait plus grave pour toi, pour l'enfant, que pour toi. Si la misère, elle est là, elle sera pour tout le monde. Si elle sera pas là, si l'abondance est là, elle sera pour tout le monde. Donc, on accepte le destin de Dieu, on fait des enfants. Bien sûr, certes, quand je vis en Éthiopie où il y a effectivement l'assurance qu'autour de moi, il y a pratiquement rien pour nourrir mes enfants et que l'État s'accapare l'intégralité du PIB, du produit intérieur brut, et qu'il affame son peuple, et que si je fais des enfants, ils sont sûrs de mourir de faim. Là, il est clair qu'il est nécessaire, il est, on va dire, important de réfléchir avant d'entreprendre ce genre d'initiative. Mais si comme quelqu'un il vit en France et il dit je suis pas sûr d'assurer, mais tu vas assurer quoi en France, alhamdoulillah, kulchi bikhair, j'ai jamais entendu parler d'un enfant qui est mort de faim en France. Ou qui était mal, à part si les parents étaient négligents. Mais dans la société, alhamdoulilah, ici, c'est une société, pour moi, qui est islamique dans l'attitude, dans les vertus. sociale et dans le rapport avec les membres de la tous les individus de la société, où chacun ait ses droits et son droit de protection de besoins matériels sont assurés et garantis par l'État.
Bien, nous allons voir dans un instant comment faire pour trouver cette compagne ou ce compagnon idéal afin de cheminer avec Sabrina. 01 53 48 3000 si vous voulez intervenir, interroger soit Sabrina, soit l'imam Abdelali Mamoun. Vous êtes les bienvenus, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Heures, 11h, l'islam au présent, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et c'est l'islam au présent sur Beurre FM, vous le savez, c'est tous les samedis. Rendez-vous que vous donne l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hein, je me suis rappelé que commencer une exhortation ou une discussion par les prières du prophète Aslam nous permet d'obtenir la bénédiction divine. Donc c'est très important de ne pas oublier les prières sur le prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Fa bismillahi wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala.
Imam Abdelali, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Sabrina, qui est avec nous. Bonjour Sabrina.
Bonjour, salam alaikum.
Bon, je vous appelle par votre prénom, hein, parce que j'ai l'habitude de vous...
Ah bah oui.
Hein, vous m'accompagnez tous les jeudis dans ce studio, puisque nous animons une émission, les petites annonces des rencontres, puisque vous êtes une spécialiste des mariages, hein, c'est votre métier, votre cœur de cible, puisque vous avez une agence matrimoniale qui s'appelle Abelni, Sabrina.
Tout à fait. Abelni, l'agence matrimoniale musulmane, qui permet donc des rencontres entre célibataires musulmans en vue du mariage.
Ça tombe bien, puisqu'on va beaucoup en parler du mariage aujourd'hui. Sabrina, alors, je vous explique le principe de l'émission. On la débute chaque semaine avec un verbe coranique. Quel est-il aujourd'hui, Imam Abdelali?
Eh bien, j'ai choisi, justement, parce que nous avons cette honorable invitée ce matin, de parler de mariage, et donc du verbe se marier ou marier. Hein, c'est le verbe zawaja ou tazawaja. Hein, tazawaja qui, tout simplement, veut dire marier ou se marier, contracter un acte de mariage. Il a pas mal de synonymes. Il y a par exemple le verbe nakaha. C'est vrai qu'il y a dans le Maghreb une connotation un peu négative, que c'est parce qu'il fait l'allusion au rapport intime, alors que non. Le mot nakaha veut dire marier, comme zawaja, alors que avoir un rapport intime, c'est jama'a. C'est pas le même vocabulaire. Voilà. Donc pour faire le distinguo entre les deux, donc le mot nakaha, on dit aqd nikah.
C'est vrai que maintenant que vous le dites,
un acte de mariage, aqd nikah, le aqd de nikah est ouais. L'acte qui permet de créer une union de mariage entre une union sacrée du mariage entre un homme et une femme, bien sûr. C'est une pratique ancestrale, hein, on n'a pas besoin de l'avènement du prophète Mohammed alayhi salat wa salam pour légiférer ce genre de pratique et d'union, hein. Il est millénaire, il date de Mathusalem, de très très longue date. Donc nous en islam on évoque ses sources jusqu'au premier homme Adam, qui s'est marié avec Hawa avant de donner naissance à ses enfants Habil et Qabil. Eux-mêmes ont été conviés à se marier avec leur demi-sœur ou avec leur sœur non jumelle, puisque Habil avait une sœur jumelle qui s'est mariée avec Caïn, donc le fameux assassin qui a tué son frère par jalousie, et donc parce que la sœur de Caïn était plus belle que celle de Abel, selon une version bien sûr, hein, mais la version coranique c'est que Caïn était jaloux de son frère parce que Dieu lui avait accordé son offrande, alors que Caïn, lui qui n'avait pas fait don de ce qu'il aimait le plus et il n'était pas sincère dans sa démarche, lui n'a pas eu la signification de Dieu que son offrande avait été approuvée. Donc fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, comme le dit le verset du Coran.
Donc, quels sont les statuts et les règles du mariage en islam, Imam Abdelali?
Alors d'abord, son statut, c'est-à-dire la règle normative, ce n'est pas ni une obligation, ni une pratique déconseillée, c'est une sunna. C'est une sunna mu'akkada, une recommandation très très forte, qui émane tout d'abord des prophètes, avant même de notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque dans le Coran, Dieu dit « Wa laqad arsalna rusulam min qablika » وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. Donc Et en effet, et certes, nous n'avons envoyé de prophète avant toi sans que nous lui ayons accordé des épouses et une famille. Donc le prophète, avec un grand P, est un individu lambda, comme les autres, qui se marie et a besoin d'épouses. Parfois, certains d'entre eux ont fait l'objet d'épreuves, tels que Noé et Lot, puisque dans le Coran il est dit que leurs épouses ont trahi leur mari, hein. Wa daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lot kanat tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fa khanatahuma. Donc fa khanatahuma, elles ont trahi leur mari. On parle pas d'infidélité bien sûr, mais on parle de trahison d'un point de vue croyance, puisqu'elles ont décidé de suivre le polythéisme et la mécréance de leur peuple contre leur mari, qui étaient des prophètes qui prêchaient la bonne parole à leur peuple, ont choisi d'être dans le camp de l'ennemi de leur mari. Et donc Dieu, Allah Azza wa Jal, leur a dit il n'y a pas de différence, c'est pas parce que vous êtes liés par le lien du mariage que je vais vous épargner. Waqil adkhul an-nar ma ad-dakhilin, et il leur a dit entrez parmi avec les autres en enfer. Et il y a par contre d'autres prophètes qui eux ont fait l'objet de femmes pieuses, de femmes bonnes, de femmes qui étaient à la hauteur et qui ont aidé leur conjoint à réaliser, comme celle de Moïse, par exemple, Séphora, qui s'est mariée avec Moïse, était une femme pieuse, et bien d'autres, et bien sûr les épouses de notre prophète bien-aimé Mohammed, alayhi salatu wassalam, wa fi muqaddimatihinna, et à leur tête, Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu ta'ala anha. Donc c'est une tradition prophétique. Un jour, trois hommes sont venus voir le prophète, on dit, ya Rasulallah, nous on n'est pas comme toi, nous on peut pas avoir le même degré auprès de Dieu, donc on va s'imposer des règles plus dures que toi. Alors l'un d'entre eux a dit, moi j'ai décidé de ne plus jamais dormir la nuit. Voilà, moi je vais prier toutes les nuits. L'autre a dit, moi je vais tous les jours jeûner, toute l'année, 365 jours dans l'année, je vais jeûner. Et le troisième a dit, moi je vais faire preuve de chasteté et je vais jamais me marier. Et le prophète a dit, non, ce n'est pas ça ma sunna. Car moi je mange et je jeûne. Je prie et je dors, c'est-à-dire la nuit je prie, mais parfois aussi je dors et je me marie avec les femmes. Et le prophète ainsi à la fin dit: faman rariba an sunnati falaysa minni, celui qui se détourne de ma tradition ne fait pas partie de moi ou de ma communauté. Donc le prophète est clair là-dessus, point de vie monacale en islam. La rahbaniyata fil islam. Et là la notion de monacale, c'est-à-dire de que la principale vertu plutôt caractéristique du moine, c'est qu'il était chaste, c'est-à-dire qu'il se privait, il s'interdisait le mariage, qui est effectivement une règle qui s'est répandue chez tous les ministres du culte chrétien, puisque les curés de l'Église catholique, donc toute la hiérarchie, tout le clergé chrétien, à part le diacre qui est le plus bas degré du christianisme, eh bien tout cela, à part le diacre, dont tous les autres, du curé jusqu'au l'évêque, archevêque, cardinal, etc., et le pape, ne peuvent pas se marier, ne doivent pas se marier. Alors que donc en islam, l'imam peut se marier, tout un chacun est invité à se marier. Le prophète encourage le mariage, il dit aux jeunes, ô vous les jeunes qui êtes en âge de se marier et qui avez les capacités intellectuelles, vous avez ce qu'on appelle al-ba'a, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, c'est ce qu'on appelle qui a le husn at-tadbir, la capacité d'entretenir une famille, falyatazawwaj, lui dit le prophète, qu'il se marie. Voilà, c'est un encouragement. Aussi, il encourage les parents, les familles des filles, parce que souvent les filles, elles avaient honte de s'avancer et de se proposer pour le mariage à des hommes, donc c'était souvent par intermédiaire qu'elles le faisaient, notamment ceux de leur famille, leur père notamment, leur frère, qui allaient chercher une épouse, un époux pour leur sœur ou pour leur fille. Et donc le prophète a dit que si un homme dont vous êtes satisfait de sa foi, donc vous êtes satisfait de son comportement, eh bien vient demander la main de votre sœur ou de votre fille ou celle qui est en âge de se marier, fazawijuh, le prophète a dit mariez-le, hein, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, car si vous ne le faites pas, vous allez répandre le désordre et le chaos dans la société. Donc le mariage est quelque chose de recommandé par notre prophète, et donc là-dessus il est clair que on doit encourager cela.
Alors quelles sont les règles du mariage?
Les règles, il y a quatre piliers du mariage, la mariée, elle soit consentante, le marié qui est consentant, les témoins, il faut au moins deux hommes musulman qui soit donc adl, qui soit de, on va dire, d'une intégrité irréprochable, que ce ne sont pas des gens réputés par le mensonge ou la perversité, que ce soit des gens honorables. Ah bah si, parce que effectivement, si je ramène n'importe quoi de scary, comme on dit, de ivrogne dans la rue pour me marier, que le lendemain on a dit alors t'étais là au moment, bah, je sais même plus, il a déjà oublié ce qui s'est passé la veille. Non, il faut que ça soit quelqu'un shahidai adl. L'expression de adl est importante, c'est l'intégrité morale de ces deux témoins. Et ensuite, la notion, la formule d'échange de consentement mutuel entre celui qui marie l'épouse, puisque en général, il y a même un hadith qui interdit à une femme de se marier par elle-même, même si la majorité des savants considèrent qu'une femme peut se marier par elle-même à partir du moment où elle a le consentement de sa famille. Le prophète dit toute femme qui se marie sans le consentement de son tuteur, son mariage est caduque, même s'il y a encore une dérogation à cette règle-là, et même un avis très très fort qui est l'école Hanafite, qui dit qu'une femme peut effectivement, même sans l'accord de son père, son tuteur légal, eh bien peut le faire si elle est saine d'esprit, si elle est considérée comme étant, à partir du moment où elle le fait auprès des autorités, puisque on considère que le vrai wali de tout un chacun aujourd'hui, ça n'est pas le père ni le frère, c'est le gouvernant. Puisque quelle est la définition d'un wali? C'est celui qui a une autorité sur toi et celui qui est en même temps un devoir de protection à ton égard. Et qui aujourd'hui nous protège? C'est pas mon père ou mon frère, c'est l'État, c'est la police, c'est l'autorité, l'administration. C'est celle-ci qui a ce devoir de protection à l'égard de tout citoyen. Donc c'est lui le wali ul-amr. Ce n'est pas ni mon père, ni... Bon, ça c'est un avis. Bien sûr, d'autres vont me dire « Ah non, mais tu dis n'importe quoi, l'imam, le wali, c'est connu, c'est le père, etc. » Bon, il y en a qui veulent rester dans cette vision patriarcale, phallocrate de l'islam, c'est leur problème. Moi, je suis dans une notion d'évolution. Je pense qu'aujourd'hui, le wali de l'homme et de la femme, c'est d'abord le gouvernant, celui qui a l'autorité. C'est pour cela qu'elle peut voyager, parce que même si elle voyage, elle passe d'une circonscription, d'une gendarmerie à une autre, donc elle est protégée par un wali et par son wali, qui est l'État. Donc voilà.
Alors, quels sont les actes recommandés quand on se marie, Imam Abdelhadi?
Les actes recommandés, il y a ce qu'on appelle khutbatul haja, le fameux sermon que l'imam va prononcer en amont de ce mariage pour créer une bénédiction et pour promouvoir la bénédiction. Il y a la réception, les noces, le repas. Hein, le prophète, un jour, quand un compagnon est venu le voir, il lui a dit « Est-ce que tu t'es marié ?» Et il lui a dit « Oui, le prophète n'est même pas au courant. » Il dit « Ah bon, est-ce que tu as fait un repas ?» Et il lui a dit « Non. » Il dit « Fais une walima, organise une noce, un repas, même ne serait-ce que par une chatte, c'est-à-dire un chatte, c'est un mouton, un petit mouton, un agneau. » Et aussi, ce qui est recommandé, c'est la diffusion. « I'lan al-zawaj » Le prophète a dit « A'linu nikahakum bid-daf, wa farriqu bayn al-haram wa al-halal bid-daf » Diffusez vos mariages par le tam-tam. À l'époque, c'était le tam-tam. Aujourd'hui, c'est le klaxon des cortèges de voitures qui se Ferrari et
quand
autres.
C'est pas quand c'est pas interdit.
Non, c'est pas interdit pour le mariage. En France, il y a une tradition.
Il y a des municipalités où les klaxonnages sont interdits.
Le samedi au moment du mariage, je suis pas sûr.
C'est toléré. Non,
ça c'est toléré mais léger.
C'est toléré. si c'est toléré, Philippe. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont assez indulgents là-dessus. Et puis bien sûr, il y a les invocations que l'on doit faire au couple, donc pour les féliciter, le prophète disait barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakum fi khair, mais aussi les conjoints hein, où le mari va dire à sa femme Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma jalabat ilayha. L'épouse elle va dire Allahumma inni as'aluka khayrahu wa khayra ma fihi wa khayra ma jalabat ilayhi. Et puis au moment même de consommer le mariage, Allahumma ajnibna ash-shaytan wa ajnibi ash-shaytan ma razaqtana. Oh mon Dieu, préserve-nous du Satan, du diable, du démon et préserve notre progéniture du Satan. Donc ce sont des invocations qui nous permettent de nous protéger et qui sont fortement recommandées lors d'un mariage et lors d'une union entre un homme et une femme.
Alors on verra tout à l'heure, Imam Abdelhadi, pourquoi il est nécessaire de se marier. Toutes les semaines, vous nous présentez un personnage. Ça me rappelle une chanson de Claude François, votre personnage d'aujourd'hui.
Pourquoi Claude François?
Parce que
Claude François... Ah oui, le mal-aimé.
Vous souvenez,
Oui, non, mais c'est les classiques. Quand j'étais petit, ma grande sœur qui kiffait Claude François, tous les jours, on avait le disque qui tournait. Claude François. Mon frère, c'était Johnny. J'avais mon grand frère avec tous les disques de Johnny et ma grande sœur.
Vous n'avez pas eu une enfance facile, hein.
Ah bah, c'était pas évident.
Est-ce que vous voulez qu'on en parle?
Bon, si tu veux.
En tout cas, on parlera de ce.
Mais sur un divan.
Ouais, non, restez sur votre chaise, sur votre tabouret. On en parlera tout à l'heure avec le bien-aimé, mal-aimé.
L'islam au présent revient dans un instant. Heures, 11h, l'islam au présent sur Beurre FM.
Et on parle du mariage parce que c'est la saison des mariages à partir du printemps. Il y a de plus en plus de mariages avec l'imam Abdelali et Sabrina qui dirige l'agence Abelni qui est avec nous. Un mot sur le nom
Abelni. Alors à l'origine c'est Qabelni, rencontre-moi ou viens à ma rencontre en arabe.
Entretiens-toi avec moi.
Oui, c'est ça. Aussi. Voilà, c'est ça. C'est, on se donne rendez-vous quand on se voit. Voilà, et on a enlevé le qaf pour plus de facilité à prononcer. Donc c'est Abelni, A-B-E-L-N-I. Voilà, vous retrouvez toutes les informations sur www.abelni.com.
Donc arrêtez de m'appeler pour chercher une épouse ou un homme ou un mari. Appelez directement sabrina@abelni.com.
Voilà, c'est
d'accord.
Ça.
Pourquoi c'est tellement compliqué aujourd'hui? Enfin, pourquoi il semblerait que ce soit si compliqué de trouver la compagne de sa vie ou le compagnon de sa vie?
Eh bien, paradoxalement, dans une société où, à l'ère des réseaux sociaux, on a l'impression qu'on a beaucoup le choix et qu'on peut discuter avec plein de monde facilement, les rencontres réelles se font pas ou peu. Dès qu'on a passé les bancs de la fac, ça devient compliqué d'avoir des nouvelles personnes, de nouveaux réseaux, et de se voir concrètement en vue du mariage. Et quand on souhaite pas fréquenter...
Mais pourquoi par honte, par gêne, parce que
oui, il y a beaucoup de gêne.
Pas.
C'est vrai que les gens difficilement s'abordent même dans la rue. Enfin, et ça devient très
compliqué.
C'est très
ça,
mal vu. Ouais, oui, ouais. Moi, j'ai des jeunes femmes qui me disent même si quelqu'un de très bien m'aborde et me demande juste un contact pour pouvoir avancer, même sérieusement, elle me dit rien que le fait qu'il m'aborde dans la rue, je ne lui donne pas de crédit en fait. Mais donc comment on fait pour se rencontrer? C'est voilà, il n'y a pas de solution. Il faut créer des opportunités de rencontre. Bon, c'est ce qu'on fait tout simplement avec l'agence. C'est rien de plus que des opportunités de rencontre.
C'est vrai que c'est délicat parce que parfois des gens peuvent commettre des erreurs graves. Par exemple, si vous, comme tu le dis, Sabrina, à chaque fois qu'une personne qui a une apparence agréable, distinguée, qui a l'air d'être respectable,
en tout cas qui vous plaise, tout simplement,
et qui va plaire à beaucoup de monde, malheureusement en même temps. Mais si elle s'est déjà engagée, elle est fiancée ou mariée déjà avec un homme, eh ben, elle va pas changer après le mariage. Elle va toujours être jolie, belle, attirante, etc. Et si elle est constamment abordée dans la rue, pour son mari, ça doit pas être très agréable de voir sa femme constamment convoitée dans
la
rue.
Vous voulez dire ceux qui ont la facilité à parler aux jeunes femmes, les jeunes femmes pensent de lui qu'il est, que c'est trop facile pour lui d'aborder. C'est ça que vous êtes en train de dire?
Non, c'est pas ça. Je pense que il doit y avoir une démarche de sagesse quand on veut aborder une fille, vérifier qu'elle est bien disponible et qu'elle n'est pas déjà engagée, voire même déjà mariée. Une fois, j'ai eu un cas dans un congrès où j'avais été présent. Il y a un frère qui était un des organisateurs et qui était là pour dire aux garçons, profitez-en pour chercher une femme, une épouse. Et puis, il y a plein de garçons qui étaient là, ouais, tiens, celle-là m'intéresse, celle-là. Ils profitaient de ce congrès-là pour justement chercher l'âme sœur, trouver une fille qui correspond à leur profil. Et puis, il y en a un qui voit une jeune femme qui lui plaît, etc. Et il vient voir le responsable, lui dit, je dirais pas son nom parce que je préfère que ça reste confidentiel. Un tel, tiens, il y en a une qui m'intéresse. Il lui dit, c'est laquelle? Montre-moi. Il lui dit, celle-là. Et il lui dit, tu vois la petite fille, une gamine par terre qui était en train de jouer, et lui dit, bah ça c'est sa fille et c'est moi son père.
Ah oui.
Et là le gars il était tout rouge, il était mal à l'aise.
Oui, il faut vraiment que ça soit cadré et qu'il y ait effectivement ce côté-là. Et autre chose aussi qu'on fait à l'agence, c'est qu'on demande on vérifie certaines informations, comme on demande clairement l'avis d'imposition, justificatif de domicile, fiche de paie et pièce d'identité.
Ah oui, l'avis d'imposition carrément.
Pour savoir le nombre de parts, est-ce qu'il a des enfants ou pas.
Ah oui, il y a l'extrait de naissance, il y a marqué
aussi,
s'il est marié.
Voilà, c'est soit ça, soit l'avis d'imposition, mais c'est pas les chiffres qui nous intéressent, c'est vraiment de vérifier que la personne elle est maritalement libre de tout engagement.
Attention, dans l'avis d'imposition, il y a des fois des pères qui ont ce qu'on appelle des...
Mais on voit s'ils sont célibataires ou mariés, en fait.
Oui,
c'est écrit.
Vrai.
Divorcés,
oui,
mariés, il y a les deux, en fait. Il y a le nombre de parts plus le statut marital. Mais effectivement, l'extrait de naissance, ça va très bien. Tout ça pour dire que quand on rencontre quelqu'un dans un autre cadre, on a vraiment du mal à demander ça dans les premiers rendez-vous. C'est pas très... Voilà, ça se fait pas dans l'usage de dire, est-ce que tu peux me montrer ton avis d'imposition? Donc, on perd aussi du temps. Je parlais l'autre fois des sites de rencontres. C'est typiquement ce qui ne se fait pas quand on rencontre quelqu'un qu'on connaît de nulle part. Et tout à l'heure, vous parliez des familles qui se chargeaient de ça. Si ça se faisait encore comme ça, ce serait vraiment magnifique et super. Or, aujourd'hui, on n'a plus de garantie sur les familles, sur l'honneur d'une femme, son passé, on va dire, familial, etc. Et donc, on essaye d'apporter un minimum de garantie, au moins de vérifier que la personne, elle est vraiment libre et sincère dans sa démarche.
Ça paraît un peu vieux jeu comme démarche, mais ce sont des valeurs qui sont d'actualité.
Exactement.
Comme vous dites,
je pense aussi que dans les premiers temps de la période où une femme ou un homme veut se marier, comme ils sont eux-mêmes à un degré, ils se sentent du moins à un degré assez important, donc ils pensent exiger une épouse qui est à la hauteur de leur niveau, quoi.
De leurs aspirations.
Ouais. Par exemple, au niveau intellectuel, au niveau physique, etc. Donc l'épouse, par exemple, la fille va chercher un beau mec, intelligent, friqué, etc. Donc c'est pas évident à cet âge-là de trouver ça. Ensuite, quand elle ne se marie pas et qu'elle atteint un certain âge, c'est les hommes qui ne veulent plus d'elle. Ou elle-même devient de plus en plus aiguë, de plus en plus exigeant, elle pense plus avec sa tête qu'avec son cœur. Donc là, effectivement, ça devient encore plus compliqué. Il y a même des femmes encore aujourd'hui que je connais qui sont très belles, qui sont très, mais qui
ne sont pas mariées à cause de toutes ces.
Parce qu'il n'y a pas le feeling, il n'y a pas ceci, il n'y a pas ce.
Mais justement,
c'est une catastrophe.
Moi, ce que je fais à l'agence, ce qui est assez important, c'est de les remettre face à la réalité. Moi, je dis souvent, je ne suis pas la bonne copine qui va dire Machallah, t'es super, ne change rien à tes critères, tout va bien, tu vas trouver. Franchement, je dis clairement que par rapport aux hommes qui viennent ou aux femmes qui viennent, ce que tu demandes là, c'est pas en fait réaliste. Et donc parfois, souvent, plus que parfois, souvent, les gens se remettent en question. Alors des fois, ils me disent je m'inscris pas chez toi si ce critère-là n'est pas respecté, je ne viens pas. Et ils me rappellent au bout de 6 mois en me disant ok, en fait finalement, tu m'as dit ce que toutes mes copines ne m'ont jamais dit et je pense que t'as peut-être raison sur tel et tel point. C'est pas si conditionnant que ça, 50 plus. C'est pas si gênant s'il
c'est
a un enfant.
C'est pas le vrai problème.
Voilà, non. Si je trouve quelqu'un de bien, je vais essayer, je vais avancer. Et c'est vrai que c'est beaucoup, ça fait vraiment partie intégrante du métier. C'est le conseil et le fait de les amener à plus de réalisme, clairement, pour voir le bonheur quand il se présente. Parce que parfois il est là, mais elles se sont tellement dit ou ils se sont tellement dit, voilà mon idéal, voici ce dont je rêve depuis mes 15 ans. Ça n'a pas changé, ça a même empiré, comme vous le dites, avec les années. Et du coup, on s'éloigne du bonheur et on s'éloigne du mariage. Et c'est un grand, grand problème dans notre société.
Moi, je voulais évoquer la fameuse muqabala, le abelni, au moment où est-ce que l'entretien qu'il y a entre un homme pour faire connaissance, etc. Je pense qu'il est aussi important qu'à ce moment-là, les deux fassent des efforts pour respecter un certain nombre de règles pour que cela aboutisse. D'abord, pour obtenir de la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, que l'un et l'autre soient sincères, comme tu le disais bien, Sabrina. Mais aussi, il faut avoir une attitude respectable et respectée. Ça n'empêche pas pour autant de s'embellir. Une femme qui va à un entretien pour le mariage, moi je trouve ça désastreux que de voir des femmes totalement sobres dans leur attitude, négligées, avec des vêtements parfois même sales, parfois même mal repassés, etc. Non, il est bien d'être dans une démarche de séduction.
Un aspect agréable.
Ouais, mais ça démarre mal là. Vous mettez pas toutes les chances.
Non, mais il y en a qui disent que au nom de cette de cette foi, de cette piété, je vais venir
c'est
avec
une marque de piété.
D'austérité, alors que c'est totalement l'inverse qui se passe. L'homme, il a besoin de... Et même le prophète, quand il a vu une femme dans la rue qui était complètement délaissée, complètement mal foutue, il lui a dit, mais pourquoi ton mari n'est pas là pour que tu sois comme ça? Elle a dit, non, il est là, mais voilà, il se désintéresse de moi. Et là, il lui a dit, non, si tu veux qu'il s'intéresse à toi, embellis-toi. Il lui a dit de s'embellir, c'est-à-dire que c'est un appel du prophète aux femmes de, pourquoi pas même, un petit léger maquillage n'est pas illicite en islam. Un léger maquillage respectable et respecté, ça n'est pas illicite en islam d'avoir une apparence agréable quand on te voit, pas forcément dans l'excès de voitures volées comme on dit
d'être pas dans la provocation dans l'exagération, mais effectivement d'être un minimum agréable au regard
un fond
de l'autre,
un léger mascara ou voilà ce genre de choses, c'est pas inintéressant, surtout quand on va à un entretien, une muqabala pour
et
se marier,
et comme vous dites, propre sur soi, c'est très important, homme comme femme, il faut faire un minimum d'effort pour que l'autre se sente aussi respecté en face.
Ce message s'adresse aussi aux hommes.
Tout à fait.
Notamment le parfum, parce que beaucoup souvent les hommes, ils ont des fois des odeurs. T'imagines une femme, tu vas à l'entretien et tu sens mauvais, c'est
horrible.
Moi,
je leur dis clairement, prenez une bonne douche avant de venir, les hommes. Mais
du parfum,
pas des baskets.
Azzaro, Chrome et tout ça, allez-y. Parfumez-vous.
Mais Imam Abdelali, vous n'avez pas, vous avez pas été vendeur chez Sephora dans une autre vie avant d'être imam.
Il faut se parfumer.
Non, voilà. C'est des très bons conseils aux hommes, merci.
Ouais, il faut se parfumer, il faut se sentir, il faut être beau, il faut être voilà, une barbe bien taillée, bien voilà, agréable à voir.
Et la tout. La femme en fait, surtout pour les, alors pour les hommes, puisque vous parlez des conseils aux hommes, les femmes reviennent vraiment là-dessus. C'est elles se sentent respectées, elles ont l'impression quand l'homme il est bien habillé, qu'il est classe, propre sur lui. Mm-hmm. C'est ce qui est le plus important. C'est pas juste l'aspect physique, beau ou pas beau, c'est vraiment ça. C'est l'attitude et le charisme, et ce qui va dégager avec sa tenue notamment.
Alors moi j'ai une question, puisque c'est l'émission s'appelle l'islam au présent. Est-ce qu'aujourd'hui le degré de pratique et d'engagement vis-à-vis de la foi, c'est un critère qui est important pour le mariage?
Oui, ça reste important. Donc chez les musulmans, c'est vrai que quand on vient me voir à l'agence, c'est pas tant, on va dire, on coche pas comme ça. Est-ce qu'il prie ou voilà. Il a le voile ou elle a le voile, etc. Mais on cherche une certaine cohérence et une certaine réciprocité. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir un certain degré de pratique va souhaiter vraiment avoir une femme qui avance en même temps.
Mais chercher quelqu'un à son niveau. Pas chercher quelqu'un de trop supérieur à soi dans la pratique.
Ça reste vraiment assez.
Parce que
ça,
souvent, on cherche un idéal au Mona Aïcha parce qu'on se croit Abu Bakr Siddiq. Tu n'es pas Abu Bakr Siddiq pour demander Khadija ou bien Aïcha. Hein, tu as un niveau, voilà, toi t'aimes bien écouter un peu la musique, bah c'est pas la peine d'aller chercher une femme qui va demain te dire moi la musique c'est haram, alors que toi t'aimes bien un petit peu de temps en temps écouter la musique. Non, prends-en une qui est à ton niveau et cheminez ensemble dans la foi. Même avec un peu de musique à la maison, voilà quoi, c'est pas dramatique. Même si l'idéal c'est d'écouter le Coran, d'écouter des doros, d'écouter, de s'instruire dans ce qui va permettre d'augmenter ta foi. Mais voilà, on a chacun un degré de foi. Il faut prendre une femme qui a ton niveau. Voilà, c'est très important pour
ça
cheminer
revient au réalisme
ensemble.
Aussi hein dans la foi, oui, tout à fait. Être tout à fait réaliste.
Back to reality, comme on dit.
Oui.
Bon, l'agence Abelny, on peut vous contacter. Donc, Sabrina, vous avez une page déjà,
oui,
internet.
Il y a une page Facebook, l'agence matrimoniale musulmane Abelny, et le site web www.abelny.com. Vous pouvez nous écrire, on vous répond sous 48 heures.
Inch'Allah. Et donc, ne m'appelez plus pour le mariage. Appelez Sabrina, Inch'Allah.
Vous avez transféré toutes vos fiches à Sabrina.
Il y a un numéro de téléphone, ils peuvent te joindre, Sabrina?
Alors, tout est sur le site internet. Je ne connais pas mon numéro par cœur, c'est une erreur.
Alors, répète Abelny. Alors,
Abelny. A, B comme Bernard, E comme Émile, L comme Laurent, N comme Noémie, I comme Icar.
D'accord.
Comme Idriss.
Est-ce que justement les agences matrimoniales, ça s'adresse à tous ceux qui ne sont pas des pros de la technique aussi quand même?
Ça s'adresse vraiment à tout le monde, les pros de la technique. En fait, le site est juste une carte de visite. Hein. C'est juste là où il y a mes coordonnées. Il n'y a absolument pas de rencontre possible sur le site. Tout se passe vraiment par l'humain. Donc, je reçois personnellement les personnes qui souhaitent
redonner son sens à l'humain.
Et maintenant, 99% des jeunes aujourd'hui ont accès à Internet. Hein, donc, c'est des jeunes.
La problématique des mariages, c'est pas que les jeunes, Imam Abdelali.
C'est tout le monde, ouais. C'est vrai.
Vous voyez,
et c'est souvent quand ils ont atteint un certain âge que là on commence à dire je vais aller voir sur les sites.
Exact. Mais on reçoit vraiment des personnes de 20 ans à 70 ans. On a vraiment de tout et on reçoit vraiment en agence et les couples se rencontrent aussi à l'agence. Voilà.
Alors ça c'est pour le mariage. On vous retrouve tous les jeudis sur Beurre FM, Sabrina, pour les petites annonces. Hein,
donc c'est à midi, c'est ça?
11h et midi.
Ah c'est 11h à midi. Ouais. 11h à midi avec Sabrina, super.
Alors on va lancer un appel pour le Ramadan. On a besoin d'enfants.
Oui, tout à fait. Donc ceux qui veulent venir à la radio pour être auditionnés et raconter l'histoire d'un prophète. Donc un jour un prophète. Voilà. Donc ceux qui veulent participer et nous envoyer des enfants entre 10 et 15 ans. Il ne faut pas que ça soit.
S'il y en a qui avant
10 ans maîtrisent bien la lecture,
maîtrisent bien les histoires des prophètes, ils sont les bienvenus.
Non, mais surtout qu'ils arrivent bien à lire. Quoi. Faut qu'on ait besoin d'enfants qui maîtrisent bien la lecture. Donc n'hésitez pas à m'appeler au 06 29 25 35 00. Je répète, le 06 29 25 35 00. On consacrera des journées, on prendra des rendez-vous, notamment les jours fériés. On a deux ou trois jours fériés avant le Ramadan là, pour faire ces enregistrements. Donc appelez-moi au 06 29 25 35 00. Ce même numéro, Inch'Allah, pour l'inscription au pèlerinage, Inch'Allah, de cette année, pour cette session 2018, avec ma participation. Donc 06 29 25 35 00. J'ai pas mon téléphone avec moi, donc attendez une demi-heure là, tant que je le récupère. À la maison.
C'est pour ça que vous étiez calme ce matin. À la semaine prochaine et dans un instant, c'est Maître Serran qui est avec nous.
C'était l'Islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.